Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 3921, 50 centimes la minute.
23h22, vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Nous évoquons bien évidemment beaucoup le coronavirus ce soir. Ça n'est pas un choix de notre part, hein, mais bien évidemment c'est une préoccupation qui est au cœur de votre quotidien. Mais je vous le dis, si vous avez envie de parler d'autre chose, n'hésitez pas. Mais on peut parler aussi, bien évidemment, du coronavirus, comme on vient de le faire avec Maryse. J'accueille Hélène, maintenant, au 3921. Bonsoir, Hélène.
Bonsoir, Olivier.
Bonsoir, comment allez-vous, Hélène?
Relativement bien, oui.
C'est un tout petit relativement bien, mais c'est bien, quand même.
C'est un petit qui s'agrandira au fil des temps.
Bon, très bien, très bien. D'où nous appelez-vous, Hélène?
Des Bouches-du-Rhône, de Marseille.
D'accord. La belle ville de Marseille. On a eu soir une Marseillaise au téléphone. C'est un petit oui, ça aussi, pour Marseille, notre belle ville de Marseille. Pourquoi
également
ce petit oui? Pourquoi ce petit oui?
Je préfère le garder par-devers moi pour le moment.
D'accord. Vous savez, moi, je vais vous raconter. Pendant longtemps, en fait, je ne connaissais pas Marseille, alors que mon père est né à Marseille, en fait. Il est né à Marseille, dans le Panier, et il a vécu jusqu'à ses 12 ans dans le Panier. En fait, mon père est à moitié corse, donc il y avait une grande communauté. Il y a toujours, d'ailleurs, une communauté corse à Marseille, mais je ne connaissais pas Marseille. Et en plus de ça, comme je suis un fan de football, je voyais Marseille un peu à travers les supporters de l'OM, pour vous dire que j'avais une vue plutôt un peu curieuse de Marseille. Et puis j'ai eu la chance de pouvoir aller tourner dans les quartiers nord de Marseille pendant un mois et demi à peu près, et de passer donc un mois et demi à Marseille. Et vraiment depuis, je suis vraiment tombé amoureux de cette ville. Donc je vous le dis, je trouve que vous avez une belle ville, et non seulement une belle ville, mais des gens. Vraiment, les Marseillais sont fantastiques. En tout cas, ils ont quelque chose d'humain. Mais ça, c'est parce que j'aime bien parler. Vous savez, donc,
moi, je suis née ici, mais je suis renfermée. Je suis le contraire.
Donc, c'est peut-être pas la bonne ville, oui.
Exactement.
Ouais. Ouais, ça doit pas être facile, donc. Ça doit pas être facile si vous êtes renfermée. Eh oui.
D'être renfermée?
Non, vous qui êtes renfermé, je dis que ça ne doit pas être facile pour vous.
De me confronter avec des personnes
Mais oui, parce qu'à Marseille, Marseille, on parle, c'est tellement, voilà. Mais bon, c'est parce que moi j'aime bien ce contact-là,
bah oui, c'est
facile.
Normal.
Les gens vous parlent facilement. Il n'y a pas de, comment vous dire, c'est comment
de je... barrière.
Allez-y, quoi, hier.
De
quoi
barrière.
Il y a pas de barrière, exactement, et donc du coup tout le monde peut parler à tout le monde, et je trouve que c'est vraiment propre à Marseille, et pas propre au sud, attention, propre à Marseille.
Oui, c'est particulier, c'est vrai. À Toulon ou à Nice, c'est différent.
Oui, complètement. Et j'ai depuis pas mal d'amis à Marseille, d'ailleurs j'en profite pour les saluer, et je salue la famille Marciano, qui sont mes amis, et qui sont eux aussi confinés là-bas à Marseille. Et comment ça se passe à Marseille alors, dites-moi?
Ça se passe, que les gens, enfin, comme dans beaucoup de régions, c'est pour ça que je vous appelais, parce que moi j'en avais assez.
Oui.
Ça fait 36 heures que nous sommes enfermés, et les gens vous disent déjà on veut sortir.
Oui.
Bon, comme je vous ai entendu tout à l'heure et que j'ai dit aussi à votre collaborateur, il y a des paralysés. Il y a des gens sur des fauteuils roulants.
Oui.
Ils ne peuvent pas sortir ou pas sortir souvent. Bon. Il y a des gens qui sont alités depuis des mois, voire des années. Bon. Comment font-ils ces gens-là? Comment font-ils? Ça fait 36 heures que nous sommes renfermés. Moi, je suis renfermée souvent. Hein. Mais ça fait 36 heures que nous sommes renfermés. Les gens se plaignent déjà. Si nous restons, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un mois, deux mois, six mois à l'intérieur, puis ces gens en sortant, en prenant le risque de sortir pour autre chose que faire les courses ou aller travailler ou faire des choses nécessaires, bon, ils vont tous nous faire renfermer finalement. Plus personne n'aura le droit de sortir, vous voyez?
Oui.
Il faut raison garder, enfin, si je peux dire. Je ne sais pas si c'est le mot exact, mais...
Si. Je pense que vous évoquez quelque chose de très important. On va continuer à en parler, bien évidemment. Vous allez me dire pourquoi, hein, ce que vous avez constaté à Marseille, et ce qui motive votre réflexion par rapport à ça. Mais bien évidemment qu'il faut plus que jamais raison garder. On se retrouve dans quelques instants, d'accord ?
D'accord.
Vous restez avec moi, Hélène. À tout de suite.
Vous aussi, laissez votre message à Olivier Delacroix au 739 21. 75 centimes plus coût du SMS. Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
23h28, vous êtes bien sur Europe 1 et c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin en direct du studio Coluche. Je vous rappelle que vous pouvez nous joindre dès maintenant pour réagir à ce que vous avez entendu ou ce que vous allez entendre au 3921. Florian est là, je le vois, je le regarde droit dans les yeux et il s'apprête à vous répondre, donc n'hésitez pas. Hélène, vous évoquiez donc le fait de raison garder, bien évidemment. Qu'est-ce qui vous fait un peu sauter comme ça de votre siège et nous appeler ce soir ?
Ce qui me fait bondir, oui. C'est l'indiscipline.
Oui.
L'indiscipline et l'égoïsme.
Alors dites-moi, qu'avez-vous constaté exactement ?
Bah, le manque de respect de l'autre, le manque de respect de soi-même d'ailleurs. Parce que, comment dire, comme je vous ai dit précédemment, si vous sortez et que d'un coup le gouvernement a dit « bon, plus personne ne sort ». Comment on fait ?
Qu'est-ce qui va arriver ? On doit le faire, là. On doit le faire, c'est ce qui a été
décidé.
Oui,
on doit le faire, mais on peut aller travailler, on peut aller faire les courses, on peut aller... C'est pas vraiment... nous sommes pour des choses, je dirais pas futiles, mais moins importantes que d'aller travailler ou d'aller se nourrir ou tout ça. Nous sommes obligés de rester dedans. Mais ça fait 36 heures que nous sommes à l'intérieur. Vous voyez des gens, déjà, qui... Comment dire ?
Ça fait un petit peu plus, Hélène, hein, quand même. Ça fait, on ne va pas jouer sur les heures, mais ça fait à peu près 48 heures, hein, et non 36 heures.
48 heures ?
Bah oui, parce
je sais pas, j'avais l'impression que c'était le 17 à midi.
Bah, c'était le 17 à midi, mais tout un tas de personnes...
Officiellement, c'est notre date.
Bah non, mais c'est-à-dire que dès lundi soir, quand le président Macron a fait son discours, les rues étaient vides. Et puis vous rappelez, les bars avaient fermé, les restaurants, les commerces avaient fermé, je crois, samedi soir, tout a fermé en fait. Donc beaucoup de gens ont devancé l'appel du président de la République. Bon, ça fait 48 heures, mais peu importe, vous avez raison que déjà, au bout de 48 heures, vous trouvez qu'on se plaint, déjà ?
Pas bon, pas la dame précédemment,
non.
Mais beaucoup de personnes, oui.
Oui, vous l'entendez,
sur
ça,
sur les radios, tout ça.
Ah, sur les radios aussi ? Sur les radios
sur
aussi ?
Sur les radios, sur Twitter, sur tout ça. Moi, j'ai vu une photo avec des infirmiers qui faisaient un doigt d'honneur parce qu'ils disaient aux gens qui veulent sortir, voilà. Parce que c'est risqué. Parce que les médecins vont se retrouver avec beaucoup. Il est venu ici maintenant à l'Aveyron des personnes de Mulhouse ou de Strasbourg, je ne sais pas, qui sont malades.
Oui.
Donc s'ils les descendent, qui font quand même 800 ou 900 kilomètres pour les descendre ici et à l'hôpital Sainte-Anne à Toulon, c'est que ce n'est pas une petite chose.
Non,
c'est
non.
Important.
Non.
Donc.
Non.
Voilà. Mais moi, je pense que j'ai peut-être tort et je peut-être que je devrais pas le dire à la radio, mais le Premier ministre est très bien. Mais il faudrait peut-être quelqu'un, comment dire, une figure, comme quand il y avait en 2003 Patrick Peloux, voilà, qui puisse nous dire maintenant, ça suffit. Parce que sinon, tout le monde va être... comment dire on n'aura plus le droit de rien. On n'aura plus le droit de rien.
Ouais. C'est-à-dire que hier soir...
On va priver tout le monde.
On parlait de ça, oui, hier soir. Et la crainte émise par Chantal, je crois...
J'ai pas écouté hier soir, je suis désolée.
En fait, la crainte, et j'ai trouvé ça intéressant, c'était que... en fait, oui. les politiques puissent se servir de ce de cette situation catastrophique, hein, et que la peur des gens, c'était ça. Moi, je n'ai pas cette peur, hein, je vous rassure.
Non, mais, pas, non.
Mais beaucoup de personnes pensent que voilà, on va exploiter cette situation et que on va attenter à nos libertés. Or, moi, je ne crois pas. Je ne crois pas du tout, non.
On nous préserve. Ah bah oui, j'espère. Oui.
Mais vous avez raison pour en revenir à la personne emblématique.
Oui.
Bah, on a vu Patrick Peloux un peu.
Oui, je l'ai vu un petit peu.
Il est très très clair même sur ce qu'il dit.
Il y a un autre médecin qui l'a remplacé. Bon, j'ai oublié son nom, mais.
Ah, je ne vois pas qui.
Mais, oui, je ne sais pas son nom, mais un médecin qui a remplacé Patrick Peloux, puisque les médecins changent, ça c'est normal. Mais je veux dire que il faudrait quelqu'un, voyez, qui fédère, qui dise. Voilà. Même si le Premier ministre est dans son rôle et fait tout ce qu'il faut pour que pour nous dire bon, mais quelqu'un d'autre qui puisse apporter encore, voyez.
Pourquoi ? Parce que vous avez le sentiment vraiment que les gens ne croient pas, ne croient pas à ce qu'on leur raconte.
Oui. Bah, exactement.
À Marseille, puisque vous êtes marseillaise.
À Marseille, et puisque j'en parle à la radio, et ce que je vois sur Twitter.
Oui.
Voilà.
Mais vous avez alors... Oui, c'est vrai que sur Twitter, bon. Moi, j'ai un peu du mal avec Twitter, mais oui. Bon. Faut faire attention sur Twitter, parce que c'est quand même...
Bah oui, mais moi, j'ai regardé des tweets de la police nationale, j'ai regardé des tweets de gens... J'ai pas regardé que des tweets de... Voilà, oui.
D'accord.
J'ai regardé des tweets comme ça.
Parce que Twitter est quand même un nid de vipères, quoi. Enfin,
il faut trier,
Je suis complètement horrifié, j'y vais très rarement. Mais lorsque j'y mets un nez, je suis horrifié parce que j'y lis. Voilà, aujourd'hui j'ai regardé, je vais vous dire, et j'ai vu un hashtag démission de Macron. Oui. Voilà, il y a des gens
je suis pas allée cliquer dessus, mais j'ai vu.
Non, mais je trouve qu'on vit des voilà, une période particulière, et on n'a pas le temps ni l'énergie à dépenser pour ce genre de débat là, vous voyez. Le débat, il viendra après, et si certains ont fait des bêtises, ils devront les assumer, vous voyez.
Oui, exactement.
Il y aura aussi un temps après pour passer à la caisse, parce qu'on passe voilà, parce que là il s'agit de la vie des gens, et s'il y a eu des bêtises de fait, je pense que voilà, les responsabilités sont...
Il faut assumer après, oui,
voilà.
Ça c'est évident.
Donc voilà, mais bon, Twitter là, c'est oula, c'est... On remarque, ceci dit, les gens ont du temps, hein, pour Twitter. Donc là, c'est pareil. Twitter, c'est devenu... Ça s'enflamme.
Il faut trier.
Oui, mais vous... Alors moi, je suis pas du tout Twitter, vous savez, quand j'y vais, c'est très compliqué pour moi. Je sais pas le faire marcher. Donc, mais bon, ma femme, par exemple, regarde, sait faire marcher. C'est vrai qu'elle se tient au courant de l'actualité. Et que sur Twitter, en fait, l'actualité est toujours beaucoup plus précise et pointue qu'ailleurs. Donc bon.
Qu'ailleurs ?
Oui.
Bah
oui,
parce moi, que j'ai si que ce réseau-là, alors. Si j'ai pas voulu aller sur Facebook, mais je n'ai que ce réseau-là, pour ça que... Oui.
Non, mais je pense que si on utilise Twitter, qu'on sait bien l'utiliser, comme vous l'utilisez, visiblement, Hélène...
Peut-être moins que votre épouse, mais bon, je l'utilise.
Bah, moi, mon épouse l'utilise pour l'actu, quoi. Et,
exactement.
Voilà, mais bon, moi, je ne sais pas faire marcher, c'est un peu trop compliqué pour moi. Je suis un peu emmanché pour tout ce qui est informatique et tout
ça. Non, mais chacun est fait pour quelque chose, en fait.
Mais alors, votre intervention, Hélène, suscite pas mal de SMS au 739-21, parce que pas mal d'auditeurs trouvent
ça
que...
Ça doit pas plaire à tout le monde.
Mais non, que c'est pas... Voilà, que juger les autres, qui se plaignent...
Mais je juge pas les autres, je me dis que si maintenant, comme vous dites, moi j'ai dit 36 heures, vous dites 48 heures, on commence comme ça, dans un mois ou deux, où on se mange, où on sort plus du tout, ou les deux. Voilà.
Moi, je pense que les gens vont s'habituer, en fait. Je parle des, vous voyez, des récalcitrants. Il y a un tweet de Sandy parle des angoisses, des sentiments de tristesse, à voir justement le monde se ralentir. Et c'est vrai qu'il faut prendre en compte aussi Voilà, tous ces gens, vous savez, un peu hyperactifs et qui, pour qui, tout à coup, ça s'arrête, qui n'ont plus de travail et qui sont contraints de rester chez eux. Moi, je comprends l'angoisse, bien
je
évidemment.
Je ne parle pas des gens qui travaillent, hein. Je parle pas des gens qui travaillent. Je parle des personnes comme moi qui sont bon. Moi j'ai une maladie génétique. J'ai une anémie sériprive profonde.
Oui.
Bon, en plus avec ce coronavirus, je sais pas ce que je risque et tout. Mais je veux dire, je parle des gens comme moi qui sont. Je parle pas des gens qui travaillent ou comme Marie tout à l'heure. Je crois que c'était Marie qui avait une entreprise et tout et qui voulait aider. Qui était dans
non,
le Cher.
C'était Maryse. Maryse, oui.
Maryse, pardon, qui était dans le Gers et qui voulait aider. Non, je ne parle pas des gens comme ça. Je parle des gens, comment dire. Mais moi, j'ai l'impression que les gens ont peur, excusez-moi, je parle beaucoup peut-être.
J'ai l'impression que
les gens ont peur de se retrouver face à eux-mêmes. J'avais entendu une personne qui disait, mais je vais me retrouver avec mon mari.
Oui.
Oui, d'accord. C'est vrai que d'habitude, peut-être, il travaille ou seulement lui travaille. Mais de se retrouver à deux, on peut chercher des choses. On peut se parler, on ne peut pas se parler. On lit un livre, on regarde la télé. Ils ont peur, les gens, de se retrouver face à eux-mêmes. De voir c'est ce que je ressens. Je ne sais pas, peut-être que j'ai tort. Hein.
Non, mais vous savez, je pense qu'il ne faut pas tirer de généralité, de toute façon. Je pense que là, ça fait 48 heures, comme vous le dites. C'est un phénomène, c'est une situation totalement inédite pour tout le monde. À part, il n'en reste pas beaucoup, les gens qui ont vécu l'occupation, vous voyez.
Oui, tout à fait.
On aura tout à l'heure, Jeannette, qui on va en parler, voir ce qu'elle pense de tout ça, même si elle est à la campagne et que voilà, elle a une vie bien à elle et particulière, mais voilà, c'est certain que je ne sais pas comment vous vous sentez, mais moi, pour l'avoir évoqué avec pas mal de personnes autour de moi encore, il y a un sentiment d'angoisse latente, vous voyez. Un sentiment d'angoisse sur le temps que ça va durer, sur le fait de justement de c'est pas tant la maladie qui angoisse, parce que je pense que plein de gens font très attention à eux et ont bien compris le message qu'il faut rester chez soi, mais c'est plus le fait d'occuper ce temps, vous voyez, combler
ce
temps, ouais. Et ça, il est certain que enfin, en tout cas, vous voyez, pour moi, c'est un exercice. Parce que je suis tout le temps en mouvement et j'ai besoin de ça. Et
oui,
très
différent.
Étonnamment, bah non, c'est pas différent.
Oui, c'est différent des gens qui d'habitude, sont au chômage ou tout ça, ils ne bougent pas.
Ah oui, mais vous savez, même les gens au chômage aujourd'hui, d'abord, il y en a beaucoup qui cherchent du travail, et j'imagine les gens qui sont
aussi
au chômage à rien faire de leur journée. Et puis même les gens qui sont au chômage, ils sortent, ils voient des amis, ils boivent des verres, ils vont au cinéma, enfin en tout cas, ils vivent. Là, on nous demande de nous arrêter, de vivre en communauté. On nous demande de rester chez nous, et donc ça suscite une angoisse de cette vie là qu'on va devoir créer, presque, parce que on ne l'a jamais vécu, ce moment là devoir rester chez soi complètement et ne se déplacer que une demi-heure, une heure dans la journée, le reste du temps obligé de rester chez soi. Pas facile.
Je sais pas, il faut avoir un retour sur soi-même. Je sais pas. Moi, j'ai vu, ça n'a peut-être pas de rapport, mais j'ai vu sur Twitter justement Philippe Croizon, qui a de l'humour, qui a un retour sur lui-même, qui est dans sa salle de bain devant le lavabo, et qui dit : je vais me laver les mains. Et puis il s'arrête au robinet. J'ai trouvé ça, mais alors vraiment, d'avoir ce genre de comment dire, vous voyez, il a un retour sur lui. C'est vraiment, il se moque de lui-même finalement. Pourtant, c'est pas vraiment quelque chose de dont on peut rire, parce que c'est dramatique.
Mais la preuve que si, lui, il veut qu'on en rie.
Ben oui, voilà.
Mais vous savez, on le disait avec Marie tout à l'heure, elle semblait assez sceptique, mais je pense que beaucoup de choses vont se révéler dans cette période. Beaucoup de,
vous voyez, et des bonnes et des mauvaises.
Moi, j'ai vu plein de choses d'artistes, de musiciens, de comédiens, d'écrivains, de pas du tout connus non plus, mais qui eux aussi sont des artistes qu'on voit moins. Vous voyez, il y a beaucoup d'humour sur WhatsApp. Il y a des réseaux qui se sont créés. Il y a beaucoup de photos rigolotes qui sortent. Enfin, en tout cas, moi, je vois une espèce de mouvement de solidarité qui est en train de s'installer avec entre les gens qui ont une conscience en fait, qui ne sont pas obligés de s'apprécier obligatoirement, mais il y a quand même là tout à coup une aventure commune incontournable que nous allons devoir affronter ensemble. Et je vois aujourd'hui ce qui me choque le plus, je vais vous dire, moi, c'est tous ces gens qui bataillent avec les policiers pour qui n'ont pas leur autorisation ou qui ne veulent pas rentrer chez eux ou qui il y a des choses qui vont se révéler dans cette société, vous voyez. Il va y avoir cette période, elle va être révélatrice de beaucoup, en tout cas de différentes choses dans notre société, et on va voir là où ça marche vraiment pas et où là où il faut un peu mettre d'ordre. Où on va maintenant dire non à ça. Je pense que
même si ça va être très dur, il va y avoir un révélateur. En fait.
En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Et je ne suis pas, je ne fais pas un excès de positivisme ou je pense vraiment que il va y avoir une prise de conscience et que beaucoup de personnes vont se révéler à eux-mêmes.
J'espère.
À eux-mêmes. Pas se révéler même aux yeux des autres. Je pense qu'il va ce temps avec soi-même, avec les siens, va devoir faire naître quelque chose. Vous voyez, alors ça va se faire pour certains dans la douleur, sans doute, mais je suis persuadé que c'est une épreuve qui va être très bénéfique et du mal va naître le bien. Je vraiment. Mais bon, ça n'est que.
Il y a la phrase, je ne sais plus si c'est dans la Bible ou je ne sais plus où c'est connais-toi toi-même. Je ne sais pas si vous connaissez cette phrase.
Je l'ai déjà entendue, mais je ne savais pas que c'était dans la Bible.
Je ne sais pas si c'est dans la Bible, je ne sais plus dans quel livre, un auteur, je ne sais plus.
Peu importe, mais en tout cas, c'est une belle phrase.
Voilà. C'est ce qui va. Moi, j'ai déjà un retour sur moi-même depuis pas mal de temps.
Oui.
Par rapport aux épreuves de la vie, par rapport à ma santé, par rapport. Bon, passons là-dessus. Mais je veux dire, certaines personnes vont se découvrir. Des talents cachés, peut-être. Moi, j'écoutais tout à l'heure la radio concurrente.
Oui.
Il y avait Claire Kame qui parlait.
Oui.
Et qui disait, je m'occupe. Et puis, elle écoutait Renaud Marx ou Bruno Marx, je ne sais plus le nom du chanteur.
Oui.
Et elle a passé un ou deux extraits de chansons. Elle a transformé des paroles. Aujourd'hui, nous n'avons plus le droit. Je ne me rappelle pas exactement les paroles qu'elle a dites, mais c'est très agréable parce que on voit justement, comme vous dites, des personnes qui se révèlent.
Oui, et je pense que ça va. Voilà. Ça ne fait que commencer. Vous voyez ?
Tout à fait.
Et imaginez que ce type d'initiative que vous voyez, vous, parce que vous êtes curieuse et que vous allez sur, que vous regardez, vous écoutez la radio, vous regardez sur Twitter, vous regardez sans doute la télévision aussi. Et...
Non, la télé, non.
En tout cas, vous vous intéressez à pas mal de médias, on va dire.
Exactement.
Et donc, vous y entendez des choses, vous voyez des choses. Mais imaginez le nombre de personnes dont on ne parle pas et qui vont se révéler. Aussi
exactement.
Et qui va être la grande majorité de tout tout ça,
ou même des personnes que nous ne connaissons pas ou qui ne se connaissent pas et qui vont se révéler, ou des personnes qui se révèlent mais qui se révèlent différemment, qui vont se voir différents.
Oui.
Je pense.
Oui.
Vous
voyez, par exemple, hier soir, je me suis dit que je n'avais jamais vu mes voisins d'en face. Cette épreuve, c'est tout bête, mais ça m'a permis de croiser le regard de mes voisins en face, à Paris. Je ne les avais jamais vus. Et en fait, et puis d'échanger des sourires, il y a tout un tas de choses qui vont faire que le monde va sans doute aller mieux, en tout cas d'un point de vue relationnel. Parce que, encore une fois, c'est dans l'épreuve dans l'épreuve que, comme vous dites, connais-toi toi-même.
Voilà, qu'on se révèle.
Complètement. Rien à rajouter sur Marseille, parce que...
Non, je préfère
parce que je trouve que vous avez été dur avec Marseille, quand même. Bon, vous n'avez pas d'accent, hein, pourtant. Vous êtes née à Marseille ?
Je suis née à Marseille,
vous,
oui, mais là...
Vous me cachez ce bel accent-là.
Non, pas du tout, pas du tout. Non, puisque je vous parle depuis un moment et...
Ben oui, mais j'aurais non, jamais dit que vous étiez de Marseille, vous voyez ?
Oui. Vous non, mais la famille, à part ma tante, la sœur de maman, non. Personne n'avait personne n'a l'accent.
D'accord. Bon, ben écoutez, en tout cas, merci pour votre intervention, Hélène.
C'est moi qui vous remercie, Jean.
Vous...
Ne m'a pas écouté.
Mais je vous en prie. Je suis là pour ça. Et puis, n'hésitez pas à nous passer un coup de fil quand vous voulez. D'accord ?
D'accord.
Je vous embrasse.
Bonne continuation.
Vous aussi, Hélène. Au revoir.